je commence un livre dès la première page. Je fais connaissance avec des personnages. Je m'embarque avec eux dans de drôles d'aventures, passées, présentes et parfois même futures. Un livre, ça délivre, ça détend et ça rend ivre. Plongé dans un bouquin, ça change et ça fait du bien. Fini les galères, fini les misères. J'oublie mes soucis, j'oublie même qui je suis. Et d'un seul coup...
Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de livres. Un livre ? Oui, mais quel livre ? Eh bien, L'Oiseau des Lires est là pour partager avec vous nos coups de cœur. Et comme aujourd'hui, je suis tout seul, j'ai décidé, pour pas me tromper, de prendre un éditeur, en particulier Scrineo, un spécialiste de la fantasy francophone, pour un peu prolonger le salon du livre d'Evreux, qui a été donc avec une thématique sur la fantasy. On va parler de fantasy francophone, parce qu'elle n'est pas si bien représentée que ça encore, et pourtant d'un éditeur qui en est le spécialiste. On va commencer avec un titre que j'aime beaucoup, qui est Gabriel Katz, Le Puits des Mémoires. Alors c'est un ouvrage qui a raflé tous les prix littéraires de fantasy française cette année, en 2013, qui a été sélectionné dans tous les prix, qu'on a raflé une grosse partie. Pourquoi ? Parce qu'il ouvre une possibilité en fantasy qui est vraiment intéressante, c'est l'histoire de trois personnages. On commence très abruptement, trois personnages se réveillent, dans un cachot pénitentiaire au sommet d'une montagne, en haillons, n'ayant aucun souvenir de qui ils sont, d'où ils sont, et pourquoi ils sont là en fait. Et on va découvrir très vite qu'en fait ils sont pourchassés pour un crime a priori qu'ils auraient commis. N'ayant aucun souvenir de ce crime, ça ne va pas les aider beaucoup. Et on va partir dans ce monde un peu étrange, très fantasy classique de ce côté-là, puisqu'on est dans un monde de magie, de complots aussi, beaucoup de complots avec différents royaumes. Et ces trois hommes sont là au milieu, pourchassés, poursuivis, avec trois caractères très différents, ce qui fait qu'on accroche énormément. On a le mage de guerre, a priori, qui est une espèce de montagne colosse énorme et qui parle énormément, du coup, il saoule un peu les autres. On a le beau parleur, le beau gosse. Alors lui, il attire toutes les filles à l'horizon, ce qui va leur valoir quelques mésaventures, forcément. Et on a le troisième qui est très discret, qui est très renfermé, il ne parle pas. Il maîtrise très bien le lancer de pierre au départ, puis le lancer de couteau. Et ces hommes vont nous emmener à travers ce monde, assez classique en soi, mais voilà, poursuivis par tout le monde. La prime qui est sur leur tête équivaut à la moitié du royaume, et tous les mercenaires, les hommes en civil, tout le monde cherche leur peau, et eux ne savent même pas pourquoi. Ça va être leur grande recherche. Et le premier volume est très, 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 très dynamique puisque c'est la traque. Il s'appelle la traque et il porte bien son nom. On passe tout le volume à courir avec eux, à espérer qu'ils s'en sortent ou à espérer qu'ils comprennent au moins comment s'en sortir. Le deuxième titre, alors c'est une nouvelle série qui vient d'arriver, c'est un tout premier volume, ça s'appelle Les Héritiers de l'Aube, de Patrick Maxper. J'en parlerai un peu plus en détail dans le troisième volume, puisqu'il a profité d'une série aussi, lui. Alors, il faut savoir que j'aime pas trop les voyages dans le temps à la base, dans les livres de littérature jeunesse et même de littérature classique. C'est vrai que je suis pas un grand fan du voyage dans le temps, que je trouve qu'il manque d'originalité, mais là, il n'y a rien à dire, il est bien. Deux enfants, enfin, un adolescent et une adulte de 22 ans qui viennent... Elle du XVIIe siècle, lui du XXIe siècle classique d'Australie d'ailleurs, il vient d'Australie, vont se retrouver projetés dans un monde par Merlin, enfin par deux disciples de Merlin, deux moines dont un décapité et l'autre qui ne parle que latin, dans un monde a priori en plein Moyen-Âge, en pleine guerre entre Armagnac et Bourguignon, en plein cœur de la guerre de Cent Ans, et ils vont devoir chercher une pierre d'émeraude, a priori qui aurait de grands, grands, grands pouvoirs et qui permettrait justement d'empêcher... l'ascendant démonique. Ils vont être aidés par un troisième garçon, un Tom qui vient de l'East End du XVIIIe siècle, juste après Jack l'Éventreur. Donc qui est un garçon très pauvre et qui va du coup être tout le temps opposé aux deux autres du fait de sa nature un peu violente et surtout de sa nature orpheline en fait, qui fait qu'il a grandi dans un quartier un des plus pourris à l'époque du monde actuel. Et l'Australien lui est plutôt protégé, c'est un garçon normal, alors que la voltigeuse, telle qu'elle s'appelle, Laure, donc qui vient du XVIIe siècle, était une bandit, un peu une Robin des Bois du XVIIe siècle. Et donc on va les suivre tout au long de ce Moyen-Âge, ils sont des héritiers des primo-sorciers, ce qu'on appelle les primo-sorciers, qui vont en fait pouvoir détecter la pierre d'émeraude et pouvoir la protéger du grand démon Fomoré, donc qui est en fait le démon Fomoré, en fait il a pris pas mal de traditions, qui sont les démons cultistes en fait qu'on va avoir, donc Hermès en grec, qui sont en fait, on pourrait dire, sur certains essais, qui sont présentés comme le même démon. C'est un démon intemporel. qui aurait plusieurs identités. Et ils vont être opposés à ce fils de démon, et on aura ce qui est très intéressant. Donc non seulement l'histoire est très intéressante, bourrée d'action, il y a beaucoup, beaucoup d'aventures, mais on a un quatrième personnage qu'on n'a pas encore vu dans la fin de ce premier volume, ce qui rend toute sa saveur finalement, puisque ce quatrième personnage serait un des plus importants par rapport aux trois autres, mais il serait piégé par le démon. On ne sait pas où, on ne sait pas pourquoi. C'est une histoire vraiment épatante sur plein de choses, sur plein de points. Pour une fois, le voyage dans le temps est bien amené et surtout bien construit. Et avec beaucoup, 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 beaucoup d'action encore une fois. Mais c'est un grand spécialiste, Patrick Mexpert. J'en parlerai dans la troisième session qui est Léo Conteur. Ah, Léo Conteur. Alors ça, c'est un des premiers titres des éditions Scrinéo qui me les a fait vraiment découvrir. Donc c'est Oliver Perru et Patrick Mexpert. Donc Patrick Mexpert qui est donc l'auteur des Héritiers de l'Aube. Léo Conteur. Alors, c'est une histoire sur 5 volumes, je crois, maintenant, mais qui fonctionne un peu en cycle. Moi, j'ai lu les 2-3 premiers volumes. Ça doit être le troisième, je crois, qui finit le premier cycle du premier grand méchant, on va dire. Mais ce qu'il y a de bien dans cette histoire, alors, il faut savoir que ça parle des bardes. Les bardes, donc ce sont des bardes plutôt des jeux de rôle. Ce sont nos bardes des jeux de rôle, donc qui avaient des pouvoirs magiques, les bardes ADD, qui ont donc la voix des rois, ce qu'on appelle la voix des rois, ce qui leur permet de capter un auditoire quand ils racontent une histoire, mais aussi d'instiller la peur dans le visuel des gens grâce à leur voix. Leurs histoires qu'elles racontent sont parfois effrayantes et ils le font bien sentir. Et Léo Conteur, pour raconter une histoire effrayante, le mieux c'est quand même de la vivre. Donc, quand on parle de squelettes qui sortent des catacombes et qui vont ensuite s'attaquer au village, le mieux pour un conteur, c'est quand même d'aller voir si c'est vrai ou pas. C'est quand même le but du jeu, mais parfois, eh ben, c'est vrai. Parce qu'en fait, cette histoire, elle ressemble un peu à l'apprenti épouvanteur dont je viens déjà parlé, qui est en fait une histoire assez sombre. Donc, on va avoir beaucoup de passages un peu dans des catacombes, des châteaux maléfiques. Et notre personnage principal, donc Roland est lié à une sombre prophétie qu'on va découvrir plus tard. Roland, en fait, est un jeune homme d'un petit village qui voudrait bien partir de ce village, en fait. Il aimerait bien s'en aller parce que, bon, vivre dans un village avec des paysans, c'est bien beau, mais ça l'ennuie. Lui, il rêve de grandes villes. Il rêve de grandes émotions, de grandes aventures. Et l'occasion va lui en être donnée puisqu'un haut compteur va mourir presque dans ses bras et lui confier sa cape, qui est l'insigne des hauts compteurs, en lui disant « Quand mes compatriotes seront là, préviens-les du danger ». Donc c'est ce qu'il va faire, gentiment. On va découvrir ensuite qu'il a un petit peu menti, finalement. Il est un peu fourbe, en fait, ce garçon, aussi, au départ, ce qui le rend attachant, puisque c'est un peu un anti-héros, au départ. Et il va rentrer, finalement, chez Léo Conteur, grâce à ça. Et Léo Conteur, on va découvrir très vite que c'est une société secrète, donc de bardes, qui est liée par le livre des prophéties. Le livre des prophéties, c'est le plus grand titre, en fait, des livres qui sont à collectionner, qui regroupe toutes les prophéties du monde, mais toutes. Qu'elle soit vraiment ridicule ou au contraire qu'elle décide de la fin du monde. Et Roland serait lié à une de ces prophéties, à une de ces pages qu'ils ont perdues, car ils cherchent tous les pages de ce livre. Et son pire ennemi, donc dans les premiers volumes, sera Dracula. Je ne spoile rien vu que c'est dit dans les premières pages, est lié aussi lui à cette prophétie vis-à-vis de Roland. Donc Roland va être pris dans le tourment d'aventure qu'il rêvait, et finalement il en rêve un peu moins, parce que c'est bien beau de rêver d'aventure contre des vampires et des squelettes, mais quand on se retrouve vraiment face à des démons, des squelettes, des vampires et des zombies, finalement ça rend les choses un peu moins intéressantes. Donc voilà, c'est une histoire sur 5 volumes, si je ne m'abuse, et c'est une histoire dans le Moyen-Âge, encore une fois, ils sont très spécialistes du Moyen-Âge, mais un Moyen-Âge un peu plus... fantastique dans le sens où on rentre moins dans l'univers. Là, l'univers moyenâgeux est moins profond. On ne cherche pas forcément à nous expliquer comment marchait le monde à l'époque, contrairement aux Héritiers de l'Aube, où on va vraiment avoir cette lutte intestine entre les Bourguignons et les Armagnacs. Là, on est vraiment sur un univers assez particulier et qui va nous emmener un peu dans toute la France, puisqu'on va passer de l'Angleterre à la France. Ensuite, ils partent en Russie, en Roumanie. On va avoir un petit tour du monde comme ça, des hauts compteurs qui vont nous emmener dans ces Moyen-Âge. Avec ce pouvoir, ce petit pouvoir qui est la voix et qui peut aussi devenir une arme, en fait, contre les ennemis. Donc, c'est une histoire très, très intéressante. Et surtout, cet anti-héros est vraiment intéressant puisqu'au départ, il est vraiment, en fait, voilà, je ne vais pas vous le dire, mais il ne fait pas ça pour les aventures. Il ne fait pas ça pour lui. Il fait ça pour être célèbre. Donc, forcément, c'est pas du tout. Il n'y a pas ce côté héroïque. Il n'y a pas ce côté héroïque, je veux sauver le monde. Non, il fait ça parce qu'il veut être célèbre et qu'il veut qu'on parle de lui. Donc, c'est une histoire assez intéressante. Et là, vu qu'il me reste un peu de temps, ouais, je vais pouvoir parler de Scrinéo en détail. Puisque Scrinéo est donc un éditeur qui s'est formé suite au courant de fantaisie anglo-saxonne qui est arrivée en France très vite avec L'Apprenti épouvanteur, Eragon, quand on a redécouvert Tolkien un peu grâce au film, où on a été un peu submergé en librairie de toutes ces choses très intéressantes. Et on n'avait pas forcément de français qui pouvait percer à ce moment-là. On avait quand même du Pierre Bottero, bien sûr, qui était là, mais ça restait assez limité. Et Skrineo s'est monté là-dessus. Et ils nous ont créé, ils nous ont créé Marie Pavlenko, qui était au Salon du Livre avec le Saskia, sa série tellement célèbre maintenant. Ils ont créé Léo Conteur. Ils ont des éditeurs francophones qui sont vraiment très, très intéressants, qui sont bourrés de bonnes idées. Ils font des ouvrages pour les plus jeunes, qui sont très intéressants, les Zoanthropes notamment, qui sont un ouvrage autour des chimères, en fait, ces hommes, mi-animaux, en fait, qui sont poursuivis par d'autres humains. Donc, pour l'instant, Skrineo, voilà, tient le pavé haut, parce qu'au niveau fantasy française, c'est eux qui font les meilleures choses, je trouve, au niveau des idées. Ils ont peut-être deux, trois soucis, on va dire, au niveau des couvertures, notamment sur les couvertures pour les plus jeunes, ou comme Gaspard, les aventures de Gaspard, et les Zoanthropes. Les couvertures sont peut-être un peu moins intéressantes, peut-être un peu plus, je sais pas comment dire, moins dessinées, voilà. Elles sont plus numériques, elles sont moins belles à regarder, je trouve. Pour les couvertures plus adultes ou jeunes adultes, elles sont vraiment très intéressantes, notamment la Traque, qui est une des plus belles couvertures que j'ai vues en fantasy française pour l'instant. Léo Conteur est très parlante, mais peut-être plus facile finalement de ce côté-là. Et Saskia est magnifique, la couverture est juste magique. Donc c'est vrai que c'est un éditeur qui a vraiment un catalogue et des critères de sélection qui sont très très intéressants, qui sont vraiment des critères assez poussés finalement. Voilà, ils ne cherchent pas la gratuité dans leurs ouvrages, ils font vraiment jusqu'au bout. Et ça donne des séries vraiment intéressantes. Après, on attend de voir ce qu'ils vont pouvoir nous produire quand même. Gabriel Katz, son prochain livre va arriver 2013-2014. Je l'ai sur ma table de nuit, il attend que moi. J'ai pas eu le temps de m'y mettre encore, mais il a l'air magnifique, encore une fois. La maîtresse de guerre, je pense que ce sera un grand succès, surtout que ce sera peut-être qu'un volume. Je l'ai pas encore eu, donc je sais pas, mais il n'est pas marqué tome en tout cas. Donc ce sera peut-être qu'un volume, c'est ce qui serait très bien, ou un petit one-shot, ça fait toujours plaisir. Et on attend la suite des Héritiers de l'Aube. Moi, je l'attends avec impatience parce que le suspense de fin est assez magique, pour le coup, puisqu'on va, a priori, on risque de changer d'époque de temps en temps maintenant, ça y est. La pierre d'Emeraude semble avoir changé ses points de vue. Pour Léo Conteur, normalement, c'est fini. Mais bon, pas de souci. Maxper et Perru, je pense, ont d'autres idées sous la main. Donc, ça devrait être quelque chose de très, 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 très profond à lire. Voilà. En espérant vous revoir très vite. Nous nous retrouvons dans 15 jours à la même heure. Et n'oubliez pas, les livres s'empruntent en bibliothèque et s'achètent en librairie.
Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit. Un livre, quand tu l'ouvres, tout ce que tu découvres, ça paraît infini pour un truc si petit.